Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Écoutez ces mots. Ils ont coupé des membres, des gorges, des langues. Des femmes ont été violées en réunion devant leurs enfants. C'est la description qu'a faite hier Volodymyr Zelensky à l'ONU sur les exactions commises à Boutcha. L'Info C'est clair est intitulé ce matin « Vladimir Poutine et l'armée russe, la honte et l'infamie ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Elsa Vida. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Vous avez vécu plusieurs années en Russie ainsi qu'en Tchétchénie. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde, c'est chez Armand Collin. Et François Bedonnet, vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Donc les troupes russes se retirent de la région de Kiev, les habitants rentrent chez eux et ils retrouvent leur maison dévastée. Regardez ce reportage, ces images prises à la volée d'Arnaud Comte et de Stéphane Guimot.
Voilà tout ce que les Russes ont laissé derrière eux. Ce sont des animaux.
À l'étage, les rations de survie laissées là par les combattants russes, à peine entamées, comme s'ils avaient dû fuir à la hâte. Ils dormaient dans la chambre de la fille d'Igor.
J'ai mis 15 ans à construire cette maison. On avait emménagé définitivement 3 mois seulement avant la guerre. Le monde russe dont ils parlent tant, qu'ils le gardent chez eux et qu'ils vivent avec. Mais nous ici, on n'en veut pas.
Mais surtout, ce qu'on a découvert avec le retrait des troupes russes, c'est l'horreur évidemment et l'indicible à Boutcha. Écoutez ce que dit le prêtre de la ville de Boutcha, écoutez son témoignage.
Pas très loin d'ici, des gens ont été torturés. Leurs mains étaient liées et ils avaient les yeux bandés. Après avoir été torturés, ils ont été tués en pleine rue, exécutés tous ensemble. Il y a par exemple le cas d'un homme exécuté en face de sa femme. On sait que toutes ces choses sont arrivées.
Et écoutez un autre témoignage d'un habitant de Boutcha qui décrit les massacres sans retenue exécutés par les soldats russes. On écoute.
C'était comme un safari. Les Russes tiraient sur tout le monde, ils tiraient sur tout ce qu'ils voyaient. Ils étaient tous ivres. Ils se promenaient en disant « Nous avons l'ordre de vous tuer, vous tous ». Et ils allaient de maison en maison, de cave en cave, ils faisaient sortir les gens.
Elsa Vida, je termine par un dernier témoignage parce que Volodymyr Zelensky disait « Il faut que le monde sache ce qui s'est passé à Boutcha ». Témoignage rapporté par Le Figaro, c'était hier. La journée, les soldats russes vérifiaient qui vivait dans les maisons. Puis, ils revenaient le soir, tuaient éventuellement les hommes qui s'y trouvaient. Ils mangeaient, ils buvaient, et quand ils étaient sous, ils violaient les filles et les femmes, même en présence des enfants. C'est vrai que c'est horrible, nous, ça nous vole, ça nous expose au visage dans le confort de nos sociétés occidentales. Est-ce que ce qu'on voit là, c'est l'indicible et la réalité de la guerre, ou est-ce que non ? C'est propre à une armée russe qui aurait la violence dans son ADN.
Alors c'est un peu des deux, et en ce qui concerne l'armée russe, effectivement, il y a un niveau de violence qui est quand même assez incomparable avec ce qu'on peut connaître dans une armée française où le cadre de la guerre et le droit de la guerre est enseigné. Dans la doctrine militaire russe, il n'y a pas de conception humanitaire de la guerre, et en plus de ça, il y a une très grande violence qui s'exerce au sein de l'armée vis-à-vis des militaires professionnels, mais vis-à-vis aussi des appelés. Un phénomène qui est très connu et analysé qui s'appelle la Diedoshina, qui faisait des dizaines et des dizaines d'invalides et parfois de morts parmi les jeunes appelés. Ce qu'on voit là, c'est aussi le résultat, je pense, d'une politique de retrait avec des militaires qui proviennent des couches les plus basses de la population, qui ont eu une formation minimale, qui occupent vraiment l'échelon le plus bas dans la société russe, qui sont habitués à une très grande violence au quotidien et qui ont été probablement laissés sans instruction. Enfin, ça, c'est quand même une interprétation qui dédouane un peu l'état-major, et c'est une question qu'on doit se poser parce qu'on ne sait pas encore si c'était intentionnel ou si c'est le fait de la situation. Oui, et au fur et à mesure qu'on découvrira d'autres cas éventuels, alors on pourra comprendre et aller à la conclusion qu'il y avait ou non une intention, et donc une intention politique derrière ces crimes.
Pascal Boniface, pardonnez-moi, mais c'est vrai que l'armée, c'est l'ordre et la discipline. Là, on a vu le premier là, qui récupérait sa maison, ils disent « mais ce sont des animaux qui sont venus dans cette maison ». On a des témoignages donc, de vodka, de viol, enfin C'est une armée qui n'aime absolument pas digne de ce nom.
Ah non, mais c'est à la fois spécifique à l'armée russe et pas spécifique à l'armée russe dans la mesure où le viol comme arme de guerre, malheureusement, c'est très répandu. On l'a vu dans les guerres balkaniques. C'était en Europe. On l'a vu dans les
et
guerres
pourquoi,
balkaniques.
Alors, pourquoi
parce
on fait
que c'est la barbarie, c'est la volonté de détruire l'autre aussi. C'est la volonté de dire que l'autre n'existe pas, qu'il n'est pas. Et notamment, le viol comme arme de guerre, c'est aussi pour éventuellement enfanter un ennemi dans le corps de la femme qu'on vient de violer. En Afrique, c'est une pratique, dans les conflits africains, c'est une pratique répandue, mais c'est pas propre à l'Afrique. Une fois encore, on l'a vu en Europe. Il y a eu les guerres balkaniques dans les années 90 et cette guerre-là, et le viol est pratiqué sur une échelle large parce que, d'une part, il n'y a pas de discipline. Il y a un manque d'encadrement de l'armée russe. Le nombre de sous-officiers n'est pas suffisamment important. Et donc, on peut dire qu'en haut, ils sont responsables de ne pas avoir organisé cela. Mais en fait, les gens sont livrés eux-mêmes. Et quand vous perdez la guerre, quand vous voyez que vous êtes sur la défaite, vous avez, je ne l'excuse pas, hein, mais
il y a
une pulsion de vengeance, une pulsion de mort. Et donc, et puis quand vous avez une arme et que vous êtes face à des civils qui sont désarmés, eh ben il y a, si vous n'avez pas une armée qui est solidement structurée avec un commandement, et effectivement, comme l'a dit Elsa Vidal, l'armée française, il y a des coups réguliers sur le droit humanitaire, sur les droits de l'homme et sur les risques encourus. Si on viole toutes ces règles. Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans l'armée russe. La cité russe est très violente. Dans l'armée russe, les soldats et encore plus les conscrits font l'objet de brimades multiples et donc il y a une culture de la violence et du non-respect des autres qui est intégrée et donc qui se retrouve en période de tension, de conflit. Quand vous perdez la guerre et que vous voyez que vous êtes en train de perdre, et bien, il y a cette pulsion sauvage ressort.
Et puis, les Avidal, c'est le drame de ce conflit, c'est qu'en fait, l'armée russe a en face, non pas des militaires ukrainiens, mais ils sont au milieu de civils. Donc, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'asymétrique. C'est ce que disait Pascal Boniface. Des civils, ils ont des armes, ils ont en face d'eux une population civile qu'il est facile d'effrayer et de terroriser.
Oui, d'une part, et je pense qu'il faut également prendre en compte le conditionnement idéologique qui est à l'œuvre, d'une part, dans la société russe depuis 10 ans, à tous égards, envers tous les segments de la population. Mais depuis la fin de l'année dernière, depuis qu'on est monté dans cette escalade qui concernait l'Ukraine, on a vu se développer des textes idéologiques dont le dernier est paru il y a 2 jours encore et qui font des parallèles et qui disent que on doit dénazifier l'Ukraine complètement, qu'à l'heure actuelle il n'est plus possible de dire que c'est le gouvernement ukrainien qui est nazi et la population bonne, qu'il ne faut plus faire de différence entre les combattants de l'armée officielle, les combattants de la défense civile, les milices et les civils, et que la population ukrainienne elle-même se rend coupable de crimes de guerre contre la population russe d'Ukraine.
Donc ça valide l'idée du génocide. Au fond, c'est pas le gouvernement ukrainien, ce serait tout le peuple qui aurait été corrompu et dont
depuis 1989, et surtout, ça valide l'idée que les Ukrainiens ne sont pas des ennemis dignes, ce sont des monstres, ils se sont placés eux-mêmes en dehors du cadre moral puisqu'on les appelle des nazis, ce qui est à peu près le summum de l'abomination. Et donc ça encourage à toute exaction parce que ça lève la question de la culpabilité morale.
François Bedonnet, on a vu ces images qui ont saisi tout l'Occident. Est-ce que pour nous, il y a un avant et un après Boutcha ? Et est-ce que ça ne complique pas, d'ailleurs, les coups de fil réguliers qu'Emmanuel Macron entretient avec Vladimir Poutine ?
Vraisemblablement, c'est une position qui est, me semble-t-il, de plus en plus compliquée pour Emmanuel Macron à tenir. Depuis le début, il dit, malgré la guerre, il faut qu'on ait une ligne de communication ouverte avec le président russe pour pouvoir justement parler de l'humanitaire, etc. Et là, on voit que malgré le grand nombre de coups de fil qu'il y a eu depuis le début de cette guerre, au contraire, à chaque fois, la Russie va plus loin dans l'horreur. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que après Boutcha, la Russie a dit dans un premier temps. Nous n'y sommes pour rien. C'est d'ailleurs encore leur ligne. Nous n'y sommes pour rien. Ce sont de faux massacres. Vous avez vu, ils avaient dit ça dans un premier temps. Les cadavres n'en sont pas parce qu'ils ont montré des images où, soi-disant, les cadavres bougeaient. Bon, on a vérifié. Par exemple, ici, à France Télévisions, on a une équipe qu'on appelle les révélateurs qui vont regarder précisément les images, comparer avec les satellites. Et ce qu'ils ont montré très bien, c'est que ces cadavres sont là, à Boutcha, depuis 3 semaines.
Oui.
Donc c'est clairement, à l'époque, c'était l'armée russe qui maîtrisait la ville. Et donc la propagande russe, parce que là c'est vraiment de la propagande russe, est totalement fausse. Et ce sont bien, quand les Russes étaient là, ce sont donc bien les Russes qui ont perpétré ces massacres. Et d'ailleurs, dans le reportage que vous avez diffusé tout à l'heure, un témoin, donc les témoins vont être évidemment importants pour ce qui va se passer par la suite, un témoin disait que les soldats russes avaient dit « nous avons reçu l'ordre de vous tuer ». Ce qui veut dire que ce ne serait pas... Alors c'est un témoignage, évidemment, il y aura des précautions, il y aura des enquêtes, etc., qui seront menées sur le plan international, mais ça semble bien montrer que ce n'est pas des exactions isolées de soldats qui auraient trop bu, et voilà, que c'est quelque chose qui était prévu et ordonné.
En tous les cas, faut-il y voir un signe que cette guerre dégoûte jusque en Russie? C'est assez incroyable, mais les jeunes Russes ne veulent plus faire leur service militaire et ils le disent face caméra. Voyez ces images, c'est à Saint-Pétersbourg, image de Carole Cuello, on regarde.
Un bureau de recrutement de l'armée russe désert. Le service militaire est ici obligatoire. Certains ne veulent absolument pas le faire et le disent sans se cacher.
J'éviterai l'armée par tous les moyens. Je n'y vais pas. Je suis contre la conscription.
Je ne veux pas faire mon service militaire, surtout dans la situation actuelle.
La situation actuelle, la guerre en Ukraine, c'est la principale raison de leur refus. Beaucoup de soldats russes ont été tués ou blessés. Pour ces jeunes, pas question de risquer leur vie là-bas.
Espérons que les conscrits ne seront pas envoyés dans des points compliqués et qu'ils ne mourront pas.
Pour les rassurer, la semaine dernière, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, l'a réaffirmé, aucun conscrit ne sera envoyé sur les zones chaudes. Selon lui, seuls des soldats professionnels combattent actuellement sur le terrain. Pour éviter le service militaire, un certificat médical, des études à l'université peuvent suffire. Cela peut aller jusqu'à la corruption.
Je prévois de contourner cela d'une manière ou d'une autre. Je pense que cela ne devrait pas être obligatoire dans notre pays de nos jours.
La campagne de conscription de printemps vient tout juste de commencer en Russie. Objectif, mobiliser 250 000 jeunes. Pas sûr que ce chiffre soit atteint.
Les Avidal, c'est incroyable. Permettez-moi ce raccourci, mais je sais pas, aux États-Unis, il y a des start-up, en France, il y a des grands vins. En Russie, il y a une grande armée, il y a l'armée rouge. Comment expliquer la perte d'attractivité de cette institution? Est-ce que je me trompe en disant que ça devrait être une institution vue de l'étranger, non? L'armée rouge.
C'est une institution quand elle concerne ses chefs et les officiers. C'est pas du tout une institution dans la réalité quotidienne des Russes, notamment pour ce qui est du service militaire lui-même, qui est connu comme un lieu vraiment de mauvais traitements, d'humiliation, parfois de mort, très souvent d'invalidité. C'est même sur cette base-là que nombre de comités des mères de soldats se sont battus des années pour essayer de faire revenir leurs enfants ou de faire reconnaître la responsabilité de l'armée dans les mauvais traitements. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a une jeunesse qui a intégré d'autres valeurs et qui attend de l'État russe une politique qui ne soit pas une politique basée sur le mauvais traitement et la force, enfin la loi du plus fort. On voit ces jeunes hommes qui veulent échapper au service militaire par des moyens légaux ou par le contournement. Ces moyens légaux, ils existent, ils sont en général pas tellement connus, en tout cas les institutions n'en font pas la publicité. Ce qui me semble très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs mouvements de résistance dans la jeunesse qui sont des mouvements auto-organisés, et notamment le mouvement des féministes contre la guerre, qui se sont le 1er avril répandus dans le pays.
En ce moment-là,
ouais,
il commence à y avoir une flamme de résistance qui s'affirme.
Oui, les dames en noir, c'est ultra minoritaire, mais ce sont les dames en noir, par exemple, elles se sont mises près des bureaux que vous avez montrés, avec des alternatives au service militaire pour les gens qui venaient. Et puis, elles mettent des étiquettes dans les rayons de supermarché. Elles remplacent les étiquettes de prix en mettant des discours sur, à côté du prix du café, par exemple, à Mariupol, l'armée tue des civils, etc. Donc, ils font ils essayent de débunker la propagande au quotidien.
Pascal Boniface, alors les informations via le Pentagone qui dit, c'est le chef du renseignement britannique, le chef du renseignement britannique, nous avons vu des soldats russes à court d'armes, le moral en berne, refuser d'exécuter des ordres, de saboter leur propre équipement. Est-ce que le moral quand même des troupes en Russie, en Ukraine, pardon, des Russes en Ukraine est atteint?
Mais permettez-moi de rebondir sur ce que vient de dire Elsa, ces systèmes, ça rappelle, et ça misdate, ça rappelle... quand il y avait la censure du temps, l'Union soviétique, sous Staline, Brejnev, où on photocopiait des textes parce qu'on ne pouvait pas avoir d'informations. Et donc le système que vous évoquez est quand même un formidable, enfin formidable entre guillemets, retour à une période soviétique. Mais oui, effectivement, vous avez raison, Axel, il y a un manque de morale, parce que quand on vous dit vous allez libérer un peuple frère des nazis, et donc vous allez être accueilli avec des fleurs, dans la joie, et que vous êtes accueilli comme un envahisseur violent, et bientôt on vous hait parce que votre comportement suscite la violence et la haine, il y a de quoi choquer. Lorsqu'on vous dit que la guerre sera gagnée en quelques jours, et qu'en fait vous êtes sur la reculade, et vous devez finalement fuir et vous replier, eh bien vous êtes choqué. Donc effectivement, pour ces soldats, rien de ce qui leur a été dit ne se réalise. Ils sont complètement pris au piège. Et donc, effectivement, il y a un manque de morale. Il y a déjà, comme vous l'avez dit, Elsa, un manque de morale du fait des conditions de vie qui ne sont pas très confortables dans l'armée. Donc, c'est plus... Je veux dire, l'armée rouge, elle est populaire s'il s'agit de défendre le territoire de la mère patrie, pas s'il s'agit d'aller à l'extérieur, avec des conditions matérielles quand même très, disons, sommaires. Et là, en fait... Dans leur chair, ils voient les limites de la propagande, parce qu'ils le réalisent au quotidien. On peut, lorsqu'on est à Moscou, croire encore à ce que dit Poutine, mais quand on est aux abords de Kiev, on voit bien qu'il a menti.
Elsa Vidal, est-ce que certains cadres responsables de l'armée rouge, on dit encore l'armée rouge, hein ? Oui.
Non,
on dit plus l'armée rouge.
45, oui.
Bon. De l'armée russe, est-ce qu'ils s'inquiètent quand même de cette image désastreuse et déplorable qui expose aux yeux du monde ces retraites militaires, ces exactions, cette incapacité à remporter une victoire propre, à envahir un pays de 44 millions d'habitants qui vous est frontalier. Que quand même, ils exposent ça. Enfin, elle était respectée, l'armée russe, quand même.
Oui, mais après, il y a des dissensions au sein des cadres. Ces dissensions, elles peuvent très difficilement se dire dans la culture militaire, d'une part, en dehors de cette question de la chaîne hiérarchique que les militaires respectent, il y a des soupçons. On a eu, par exemple, des bataillons entiers de la garde nationale qui ont refusé de partir se battre et qui ont pu s'appuyer sur la Constitution, parce que ce qui les protégeait, c'est que ce corps n'est pas prévu pour une intervention à l'extérieur. Donc, on a ces cas-là. On a eu des forts soupçons de la part, portant sur le chef d'état-major, disant qu'il était opposé à l'opération, mais qu'il, malgré tout, son devoir était de la mettre en œuvre. Bon, donc, Gerasimov est toujours là, Rutskoy est toujours là. On sent qu'il y a de la dissension, mais pour autant, il n'y a pas de désertion, il n'y a pas de refus au plus haut niveau d'exécuter les ordres. Même si on pourrait comprendre toutes les adresses, par exemple, de Joe Biden qui qualifie Vladimir Poutine de boucher, de criminel de guerre, et la répétition de ces qualificatifs sont faits aussi à l'intention des décideurs dans l'état-major et dans l'establishment russe, de manière à leur dire comment allez-vous pouvoir continuer à défendre les intérêts de votre pays avec un exécutif qui n'est plus reconnu comme un interlocuteur valable.
Donc l'opposition ne se manifeste pas, mais selon vous, elle est rentrée. Il y a, dans l'état-major militaire russe, il y a certainement des gens qui disent « Où allons-nous ? Où est-ce que Vladimir Poutine nous entraîne ?»
Certainement. La difficulté pour eux, c'est de pouvoir s'organiser et de trouver aussi un candidat légitime, sachant que Vladimir Poutine a aussi mis en place des services qui sont chargés d'écouter tous les autres services. Et il a mis en place aussi un service qui est chargé de sa seule sécurité et qui gère également tous ses moyens de communication.
En fait, nous sommes sidérés par ces images que l'on pensait impossibles au XXIe siècle au cœur de l'Europe. Et je vous propose d'écouter, c'est un dernier témoignage qu'on va écouter. C'est un habitant d'Irpine qui rentre chez lui et qui partage cette sidération. C'est un témoignage recueilli par Arnaud Comte et Stéphane Guimau.
Victor Mounieko, ce volontaire, était pasteur avant la guerre.
Regardez sa maison.
Aujourd'hui, il recense les victimes civiles.
Cet homme était handicapé. Il était en fauteuil roulant.
De la maison de cet habitant, il ne reste que quelques pans de mur. Sa fille, qui l'accompagnait, est morte avec son trousseau de clés à la main.
Je suis chrétien, mais je suis en colère. Des humains ne peuvent pas faire ça. Ça se passe au sein de l'Europe, au XXIe siècle, au XXIe siècle. C'est de la folie. Je n'arrive pas à l'expliquer.
Et c'est ce qu'on ressent, ça, tous au fond de nous-mêmes en tant qu'Européens. On se dit, bah, on pensait que la guerre, ça n'était plus dans notre continent. Oui. C'était ailleurs, bah voilà, parce que. Mais on pensait qu'en Europe, on ne. Et on lui en veut pas, Vladimir Poutine, de nous infliger ce spectacle chez nous.
Bien sûr que les Européens lui en veulent. Et puis, je crois que Boutcha, ça marque de toute façon, ça marquera de toute façon un tournant dans cette guerre. Vous savez que. On parle beaucoup de lignes rouges et on se disait depuis quelques semaines que peut-être la ligne rouge, ça serait éventuellement l'utilisation d'armes chimiques. Là, on voit que, en fait, non, pour l'instant, là, la ligne rouge a clairement été franchie et c'est le massacre de Boutcha, massacre de Boutcha qui ont été découverts récemment. Mais ce qui est important de voir, c'est que au fur et à mesure que les villes libérées et reprises par les Ukrainiens, on va vraisemblablement, en tout cas, tout le monde craint qu'on découvre des scènes et des massacres de ce style un peu partout, dans le nord de l'Ukraine, puisque, comme vous le savez, l'armée russe s'est redéployée maintenant vers l'est, vers l'est du pays. Et donc là, évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'attention dans les jours qui viennent, parce que vraisemblablement, il va y avoir des découvertes macabres de ce style qui vont être faites.
Elsa Vidal, est-ce que Vladimir Poutine cautionne, encourage cette espèce de fuite en avant dans la violence ? On s'interrogeait au tout début de la guerre sur son état de santé mentale et même physique. On disait, tiens, il a grossi, il y avait des rumeurs sur son... Est-ce qu'après un mois de guerre, on peut imaginer que que sa santé, en tous les cas, ne s'est pas améliorée ?
Oui, il y a eu de nouvelles rumeurs qui se sont répandues, disant qu'il avait un cancer de la thyroïde, c'était la semaine dernière, il me semble, et que voilà, son jugement pouvait être troublé. Mais surtout, c'est un homme qui est isolé, qui a été mal conseillé au début de l'opération, auprès de qui l'armée et les services de sécurité, certains départements du FSB, sont en compétition pour avoir son écoute. Le FSB ayant malheureusement à son palmarès de nombreux échecs les dernières années, il semble que Shoigu soit en ce moment en train de regagner plus de confiance de la part de Vladimir Poutine. Le problème, c'est que on peut pas exonérer Vladimir Poutine de ce qui se passe maintenant, puisque ça fait plus d'un mois. On voit que la ligne est très claire, la ligne est réitérée, celle d'une dénazification complète de toute l'Ukraine, qui serait devenue nazie depuis 1989, c'est-à-dire que le rapprochement avec l'Occident est assimilé à un processus de nazification. Donc c'est quand même très proche d'une déclaration de guerre totale et presque de guerre de civilisation, ce qui est très étrange.
Oui, vous parlez, parce qu'on parlait, pour le coup, c'est le Pentagone qui parle d'un chef de guerre mal informé, oui. Dont l'entourage, d'ailleurs, hésite à lui rapporter les mauvaises nouvelles.
Oui, c'est typique, ça, des... C'est typique, en fait, de l'organisation des institutions russes où toute personne qui a la chance d'avoir un poste un peu élevé s'empresse presque toujours de le monétiser, d'en tirer des subsides, d'en tirer des moyens complémentaires de subsistance, ce qui fait que perdre ce poste reviendrait à perdre non seulement son salaire, mais tout ce qui va avec, la capacité d'influence, la capacité, sa clientèle. Donc on est très peu enclin à dire la vérité à celui qui pourrait vous priver de ce poste. Et qui plus est, il peut y avoir quand même des conséquences judiciaires. On n'est pas à l'époque des purges où malheureusement une erreur vous valait une disparition forcée. Néanmoins, les gens sont très attachés à leurs fonctions qui sont encore une fois pas vécues comme le service de l'État ou le service de l'intérêt collectif. Hein.
Pascal Boniface, on voit bien qu'il n'y a plus de recul possible maintenant pour Vladimir Poutine. Mercredi 30 mars, le secrétaire général de l'OTAN mettait en garde contre l'usage d'armes chimiques. Dimanche dernier, interrogé dans Le Parisien, Florence Parly, la ministre des Armées, interrogée sur la menace nucléaire, disait bah, « écoutez, il ne faut rien exclure ». Est-ce que plus acculé que jamais, plus enfermé que jamais, et dans une fuite en avant sans retour possible, il faut... Bah, comme dirait Florence Parly, ne rien exclure.
Oui, il faut ne rien exclure par rapport à la gradation dans l'horreur à laquelle on assiste. Mais enfin, il y a un, la barrière chimique, deux, la barrière nucléaire, l'étape supplémentaire. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Boutcha, c'est une étape supplémentaire. Il y a déjà eu des crimes de guerre auparavant, bombarder les populations civiles. Mais là, on tue des gens qui sont désarmés de sang-froid. C'est pas dans le flot des bombardements. L'arme chimique, c'est pas tellement utile pour une armée qui recule. C'est plutôt ça qui peut l'empêcher, le nucléaire. Bon, ceci étant, même si Poutine est un criminel de guerre, la vérité, c'est quand même avec lui qu'il faudra négocier un jour ou l'autre. parce qu'il y a de deux choses l'une. Lorsque le Premier ministre polonais dit « on n'a pas négocié avec Staline, on n'a pas négocié avec Hitler », ainsi avec Staline, on a négocié, parce qu'il y avait une menace supplémentaire qui justement s'appelait Hitler. Avec Hitler, on n'a pas négocié, mais on allait à Berlin. Personne ne propose d'aller à Moscou. Donc, je veux dire, il y a l'émotion, effectivement, mais il faut rester lucide. Si, sauf une révolution interne en Russie, mais dont on sait qu'elle est peu probable, c'est bien avec Poutine qu'il faudra négocier un cessez-le-feu et puis une paix. Malheureusement, il ne le veut pas pour le moment. Et il a même, il n'a pas saisi l'occasion. Zelensky a fait des concessions sur la neutralité de l'Ukraine, y compris même en disant qu'il était prêt à parler de la Crimée et du Donbass. C'était une porte de sortie très bonne pour Poutine qu'il n'a pas saisie.
François Baudonnet. Il y a officiellement des négociations qui sont toujours en cours et qui n'avancent absolument pas. Donc, effectivement, on voit bien que Vladimir Poutine s'est totalement cornérisé et que les négociations dont on avait pu penser il y a quelques jours, qui avaient peut-être une petite ouverture, une possibilité de sortir du conflit, là, c'est totalement au point mort et il n'y a aucune avancée.
Alors, nous ne ferons pas tomber Vladimir Poutine. Pascal Boniface, vous parliez à l'instant d'une révolution de palais. Le peuple russe peut-il, pourrait-il faire tomber le maître du Kremlin? Je vous propose d'écouter ce reportage d'Arnaud Comte et de Stéphane Guillemot. C'est en Ukraine, à Kiev, où il y a des Russes. Sauf que les Russes d'Ukraine, ils ne soutiennent absolument pas l'armée russe. Ils ont pris fait et cause pour le peuple et pour leur patrie d'adoption, l'Ukraine. Regardez ce reportage.
Pas une nuit, pas un jour, sans ce bruit anxiogène des bombardements et des sirènes. Tel est le nouveau quotidien des habitants de Kiev, une ville qui compte désormais plus d'hommes en treillis que de familles. Défendre la capitale ukrainienne coûte que coûte, c'est la promesse que s'est faite Artyom Javoronkov. Pourtant, ce grand gaillard n'est pas ukrainien, mais russe.
Ça, c'est ma boîte de survie dans laquelle il y a tous mes documents importants. Je ne peux pas avoir de passeport ukrainien et je ne suis pas vraiment fier de celui-ci.
Artyom n'est pas retourné en Russie depuis l'annexion de la Crimée il y a 8 ans. Il s'est engagé en tant que volontaire pour distribuer des plats chauds aux plus anciens et se dit prêt aujourd'hui à combattre les soldats de son propre pays.
Il y a le camp de la justice et celui de l'injustice. Moi, je veux être du côté de la justice. Qu'importe si je suis ukrainien ou russe, je ne peux pas faire comme si rien ne se passait. 71% des Russes supportent Poutine. Ils sont aussi responsables de cette guerre.
Sa mère, âgée de 70 ans, vit toujours en Russie. Il lui envoie régulièrement des vidéos des bombardements de son quartier. Mais elle peine à croire ce que lui dit son fils.
Elle me répond que ce ne sont pas des missiles russes, mais ukrainiens. C'est trop difficile pour quelqu'un qui n'a connu que la propagande de changer sa vision du monde. Elle ne veut pas voir la réalité pour ne pas se détruire elle-même intérieurement.
Et Pascal Boniface, ici de ce sondage, 71% des Russes soutiennent Vladimir Poutine. Ça a même gagné 12 points là dans le baromètre. On est à 83% des Russes qui approuvent les actions de Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'il faut dire c'est truqué ou est-ce que ce sondage il manifeste
non,
même une réalité ?
Ça paraît réel parce que l'Institut de sondage qui a fait ce score est plutôt réputé pour son indépendance. Il n'est pas lié, c'est Sloboda, il n'est pas lié à Poutine. Bah, disons que c'est l'effet de la guerre. Quand un pays est en guerre, ce n'est pas propre aux Russes. Quand un pays est en guerre, la population se resserre, la communication d'un pays en guerre devient de la propagande, elle est plus facilement crue parce qu'il y a le sentiment d'une menace. Et effectivement, le fait qu'on accuse que Biden dit que Poutine est un boucher, les Russes vont dire oui, mais les Américains ont fait pire, donc en fait ils mentent, etc. Et je dirais que, et lorsque Zelensky dit qu'il y a un génocide, ils disent non, ils exagèrent. Et donc aussi les excès de. Lorsque. Soi-même, on fait de la propagande, on facilite un peu cela. Mais ce qui est certain, et peut-être déplorable, en tout cas c'est une réalité, c'est que oui, Poutine, il y a un effet un peu, on se resserre autour du leader quand on estime que le pays est en danger et qu'il est, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Mais les Russes ont le sentiment qu'ils sont attaqués par le monde occidental et la propagande de Poutine sur le fait que les Occidentaux ne veulent pas que la Russie soit une puissance, de nouveau, ça marche très bien.
Et ça pose un problème supplémentaire aux Européens parce que l'idée des sanctions, c'était de montrer que, que les Russes eux-mêmes, la population russe, voient les conséquences.
On paye les conséquences dans la vie quotidienne.
Les conséquences, l'idée, c'est de faire payer le plus possible. Alors, plutôt les oligarques, etc., mais aussi que la population voit les conséquences et que ça fasse pression pour qu'il y ait un changement peut-être à la tête de l'État russe. Et là, ce qu'on voit avec ce sondage, et aussi parce qu'il y a eu cette loi anti-fake news, entre guillemets, qui a été votée et qui fait qu'en fait, il n'y a plus que la propagande officielle, ben on voit qu'en fait, ça ne fonctionne pas.
Ça soude les Russes, au contraire.
Au contraire, ça soude les Russes à la fois. Et voilà, parce que, encore une fois, propagande plus le fait que cette propagande est très efficace, eh bien, les Russes sont complètement soudés et de plus en plus. Et ça pose encore une fois un énorme problème aux Européens, parce que l'objectif, c'était d'affaiblir à l'intérieur de la Russie, et ça ne marche pas.
Moi, je pense qu'il faut quand même se donner du temps, parce que je pense qu'il faut vraiment rentrer dans les questions de quel russe parle-t-on. Il y a des Russes qui sont, comme vous l'avez vu, les jeunes hommes ou des jeunes, d'une manière générale, qui sont nés après l'Union soviétique et qui sont porteurs d'autres valeurs, qui ont pu voyager, qui parfois se sont formés à l'étranger et qui ont une vision différente de ce que leur État devrait faire. Il y a des gens qui sont tout en bas de la pyramide sociale de la Russie et qui vont payer le prix fort pour toutes ces réformes qui n'ont pas été faites, pour les sanctions qu'on applique, qui vont aller se battre et dont la vie ne comptera pas. Eux, ils ont à peu près zéro voix au chapitre, on ne les écoute pas. Et puis, il y a quelque chose qui est intermédiaire, cette couche intermédiaire qui a des choses à perdre, mais qui a construit son bien-être relatif, une forme de couche moyenne, sur des compromis en chaîne. Et peut-être qu'elle va avoir du mal à abandonner ses compromis, mais elle envoie ses enfants à l'étranger pour qu'ils se sauvent. Elle va rester. Il y a aussi des Russes qui choisissent de rester pour mener la lutte de l'intérieur. Il y a aussi de grandes voix et de grandes consciences morales qui décident de ne pas partir pour faire ça, pour être là, pour continuer, comme à la période soviétique, à témoigner. Et ensuite, bien sûr, Levada, le centre Levada est un centre très respecté parce qu'il applique des méthodes de sondage qu'on considère qualitatives et qui répondent à nos standards. Mais on ne peut pas décemment imaginer des Russes qui ont quand même le souvenir de la répression pendant toute la période soviétique qui a duré plus de 70 ans, répondre à des sondages téléphoniques, honnêtement.
D'accord. Je veux dire,
il risque quand même maintenant jusqu'à 15 ans de prison.
Donc vous n'y croyez pas à la révolution populaire, en tous les cas, qui ferait tomber Poutine?
Je l'appelle de mes voeux. Effectivement, c'est la responsabilité des Russes. On ne voit pas pourquoi les Russes, plus que d'autres, en seraient incapables. Mais il y a quand même une culture qui appelle les Russes à rester extrêmement fatalistes, à leur dire qu'ils ne peuvent pas lutter contre cette...
Et se mêler des affaires de l'État, il n'y a que des coups à prendre.
Exactement.
On se termine au goulag.
Oui. Mais... c'est la réalité tout autre. Les peuples le peuvent, le peuple russe le peut.
Et la révolution de palais, l'entourage qui pourrait, s'en disant, oh là là, où est-ce qu'il nous entraîne, Vladimir?
Ça incite pas à l'optimisme non plus, parce que le premier qui bouge, quand même, il n'y a pas de numéro 2 en Russie. Le premier qui bouge, il sera détecté, et il est difficile de se concerter quand on sait qu'on est constamment écouté. Staline, il est mort dans son lit. Donc,
il paraît que personne n'osait le réveiller de peur, justement, d'apporter une mauvaise nouvelle et d'être exécuté.
Un regard de Staline glaçait, effectivement, cela. Et par rapport à ce que vous venez de dire, Elsa Vidal, c'est qu'il y a effectivement le problème pour Poutine, c'est la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'informatique, dans les nouvelles technologies, l'information, la communication, etc., ils n'ont pas envie de vivre dans une Russie re-soviétisée, re-stalinisée. Et donc, il y a... Alors, je n'ai pas réussi à avoir confirmation des chiffres, mais on parle entre 100 et 200 000 Russes qui seraient déjà partis. Et il y a quand même un problème, c'est que où sont les géants digitaux russes? Il n'y en a pas. Il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis. Donc, alors que les Russes sont les meilleurs mathématiciens. Oui. Et donc, ils ont déjà un déficit de cadre dans ce domaine qui est quand même essentiel pour l'avenir économique d'un pays. Et ils partent. Et je pense, et je l'avais dit déjà dès les premiers jours sur ce plateau, l'erreur que nous, Occidentaux, avons fait, c'est de fermer nos instituts, nos centres culturels, de fermer ceux qui sont en contact avec la société civile russe, parce qu'on a fermé une porte de sortie qu'ils avaient vers l'extérieur. Avoir un contact. Très souvent, ces types d'instituts, instituts Goethe, etc., dans beaucoup de pays, c'est pour la population qui est, disons, dans un régime autoritaire, c'est une façon de pouvoir s'échapper, d'avoir accès à une autre information sans quitter le pays. Et on a nous-mêmes fermé cela au titre des sanctions. C'était une erreur.
Oui,
moi, ce que je voulais éventuellement ajouter pour compléter ce qu'a dit Pascal Boniface, c'est que plus j'en viens à observer les réactions dans l'arène politique et diplomatique face à la manière dont la Russie conduit la guerre et terrorise aussi sa propre population, plus j'en viens à considérer que c'est le projet de Vladimir Poutine, en fait.
C'est-à-dire
d'isoler à nouveau la population russe de l'influence corruptrice de l'Occident, parce que ce qu'il dit de l'Ukraine. C'est aussi ce qu'il dit des Russes, qu'il qualifie de nationaux traîtres. Et donc, les sanctions, le fait de punir, éventuellement de mettre au banc de notre société même la culture russe, de fermer les possibilités pour les Russes.
Ça refait le rideau de fer qu'il appelle de ses voeux.
Tout à fait. Il a restauré la puissance de la Russie dans l'arène internationale. C'était sa première mission, une forme de capacité à laver l'humiliation de la fin de la guerre froide. Et maintenant, on peut couper à nouveau les Russes.
Et les Européens dans tout cela? Eh bien, les Européens sont unis face à Vladimir Poutine, unis à 27, sauf un, Viktor Orban. Viktor Orban qui a été réélu dimanche dernier et qui a donné deux baffes dans son discours. Vous allez l'écouter, c'est surréaliste. Une contre Bruxelles et une contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On regarde ce sujet de Nicolas Coadou.
Sourire aux lèvres, Viktor Orban entonne l'hymne national hongrois avec ses partisans. Son parti nationaliste conservateur vient de remporter les élections législatives. Le Premier ministre, connu pour ses diatribes envers Bruxelles, se dirige vers un quatrième mandat consécutif.
Bon, alors, mille excuses, il n'y avait pas la traduction, donc on n'est pas tous fluents en courant en hongrois. Alors, ce qu'il disait de mémoire, il disait « j'ai gagné malgré l'opposition de Soros, hein, malgré l'opposition des grands médias internationaux, malgré l'opposition de Bruxelles ». Et il a terminé, et malgré, et ça le faisait beaucoup rire, l'opposition du président ukrainien. Et il a fait « hé ». C'est l'insolence et la honte quand même, parce que j'imagine que les Hongrois sont sensibles au malheur de leurs frères ukrainiens. D'ailleurs, beaucoup d'Ukrainiens sont réfugiés aujourd'hui en Hongrie.
Mais Viktor Orban a totalement raison. Et c'est une épine supplémentaire dans le pied de Bruxelles, clairement. Vous savez qu'il y a une polémique autour de l'état de droit, que Bruxelles veut punir la Hongrie en ne lui versant pas les fonds que la Hongrie pourrait obtenir, parce qu'il y a des problèmes donc, de l'état de droit, par exemple, beaucoup de corruption. Vous savez, Viktor Orban a monté tout un système qui ressemble à un système un peu mafieux, où en fait, où tous les chefs d'entreprise sont dans son entourage, etc.
Donc, et pourtant, il a été réélu.
Alors après, il y a peut-être eu, vous savez qu'il y a eu des observateurs internationaux, il y avait 300 observateurs internationaux sur ces élections, ce qui est beaucoup. Il semblerait que le jour du scrutin, ça soit passé plutôt correctement. En revanche, avant, ils ont montré, et on revient sur la puissance évidemment des médias, etc., qu'en fait, Viktor Orban était quasiment le seul à avoir eu la parole. Dans les médias publics hongrois, par exemple, son opposant, qui représentait toute l'opposition, a eu 5 minutes de temps de parole, alors que Viktor Orban était présent absolument partout. En tout cas, cette victoire de Viktor Orban pour ce quatrième mandat est un énorme souci, encore une fois, pour Bruxelles. Et vous parliez d'union. C'est vrai qu'il y a une union globale quand même des Européens depuis le début de ce conflit. Mais là, ça crée vraiment un gros problème pour l'Union européenne, parce que...
Le cas Orban
était déjà un souci depuis plusieurs années. Ouais. Mais là, il l'est encore plus, parce que de façon démocratique, avec les urnes, il a été considérablement renforcé.
Néanmoins, Pascal Boniface, Orban, qu'on décrivait comme influent, est-ce qu'il n'est pas isolé, là, quand même, au sein de l'Union européenne?
Oui, il est bien sûr isolé, parce que là, il est le seul.
Il n'est pas suivi par les Polonais ou les Tchèques?
Non, les Polonais, à l'inverse, l'unité existe, mais vous avez les Polonais et les Baltes qui veulent encore plus durcir les sanctions à l'égard de la Russie et qui reprochent, le Premier ministre polonais a reproché aux Français, aux Allemands, d'avoir voulu négocier avec Poutine. Donc on voit qu'il y a quand même l'unité se lézard. Quand même. La Pologne et les Pays-Bas voudraient qu'il y ait une procédure express d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, vu l'état de la corruption, parce que l'Ukraine est un pays martyr, mais ça reste un pays très corrompu. Et donc, on n'a peut-être pas intérêt à les faire rentrer comme cela. Et Zelensky fait la morale à tout le monde, mais il y a un peu de ménage à faire chez lui aussi, en dehors de la guerre. Et donc, on voit qu'il y a quand même une unité qui se lézarde un petit peu. Mais Orban, il est isolé. Il est isolé. Et la grande contradiction, c'est que il crache littéralement sur Bruxelles, mais sauf sur les fonds qui lui sont attribués parce que c'est quand même très facile de dire que Bruxelles est la nouvelle capitale qui veut imposer, qui attaque la souveraineté hongroise. On l'a vu avec les élections, ce n'est pas le cas. Et par contre, il profite très largement, la Hongrie est le pays qui profite le plus avec la Pologne d'ailleurs, des fonds structurels. Et ce sont les deux pays qui se disent les plus opposés aux diktats de Bruxelles.
Mais Elsa Vidal, on a du mal à lire, à décrypter ce que pensent les peuples hongrois et polonais. Parce que c'est vrai, ils étaient assez critiques vis-à-vis de Bruxelles. Et on avait eu l'impression, ou la Hongrie qui regardait finalement en disant mais il ne faut pas cracher sur Moscou. Puis là, là on lit exactement l'inverse avec des Polonais radicalement anti-russes. Quel est l'état d'esprit des peuples d'Europe centrale? Est-ce qu'on peut tous les mêmes dans un même sac?
Non, les Polonais et les Hongrois ne partagent pas tout à fait le même destin vis-à-vis de la Russie et de Moscou. D'abord, on peut rappeler que les Polonais, la Pologne a été intégrée très durablement à l'Empire russe, puis a été par la force, tout comme la Hongrie, ramenée dans le giron de l'Union soviétique. Mais les Polonais se sont, depuis le XVIIIe siècle, au moins battus pour leur indépendance vis-à-vis de la Russie, ce qui n'est pas exactement le cas de la Hongrie, puisqu'il y avait d'autres empires. Mais donc, les Polonais ont quand même ce souvenir-là. Certains l'ont en Hongrie, mais en Hongrie, Viktor Orban, qui est extrêmement habile, a quand même une carte à son avantage, qui est la facture d'électricité, la facture d'énergie. Sur chaque facture hongroise, on voit la somme économisée grâce au deal qu'a fait Viktor Orban avec Moscou. Donc il y a cette première chose. Ensuite, sur les réfugiés ukrainiens qui arrivent en Hongrie, d'abord la plupart transitent et ils ont été assez bien accueillis au début sous l'alibi qu'ils étaient des membres de la minorité hongroise d'Ukraine.
Ah, d'accord.
Pour le reste, comme l'a bien dit Viktor Orban, les réfugiés sont encouragés à ne faire que passer et sur son territoire. En revanche, on ne doit pas faire circuler d'armes. Ce que je voudrais rappeler sur Viktor Orban, parce qu'on ne le dira jamais assez vu qu'il conspue Soros, c'est que c'est Soros qui l'a lancé en politique. Ah. C'était un jeune militant, justement, Soros, qu'on voit parfois avec le cheveu long et qui portait des valeurs tout à fait différentes.
François Bonnet, un dernier mot sur... Hier, Volodymyr Zelensky s'en est pris à Merkozy en disant Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont été trop complaisants vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est vrai que... Alors, peut-être c'est notre prisme français, mais on se dit surtout que c'est Angela Merkel qui a toujours fait... Elle avait même théorisé, faisant du business avec Moscou, ça adoucira la patte et vous allez voir, peut-être que bientôt ils rejoindront l'Union européenne.
Alors, Merkozy, c'est un terme qui était utilisé donc à l'époque où Nicolas Sarkozy et Angela Merkel étaient au pouvoir. Et c'était effectivement le couple franco-allemand. Et c'est vrai que, en fait, a posteriori, le bilan d'Angela Merkel... qu'on avait présenté comme globalement extrêmement positif, ses 16 ans au pouvoir et globalement sur le plan de l'économie qui marchait bien, etc. Et bien là, en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ça affaiblit. Alors d'abord, effectivement, sur le plan diplomatique avec les accords de Minsk, etc., qui sont aujourd'hui critiqués. Et puis également sur le plan de l'indépendance. En fait, cette croissance économique allemande, elle s'est quand même beaucoup basée sur le gaz russe. Et on voit qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un énorme...
Trop de business, pas assez de politique.
Quoi. Exactement. Et d'ailleurs, ça pose aujourd'hui un problème, parce qu'il y a des sanctions supplémentaires qui devraient être annoncées aujourd'hui par l'Union européenne. Et on sait que c'est l'Allemagne qui, même s'il y a des problèmes d'ailleurs dans sa coalition, la coalition est un peu compliquée là-dessus. Mais en tout cas, c'est l'Allemagne qui refuse de faire un embargo sur le gaz, alors que d'autres pays sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Donc l'Allemagne, effectivement, se retrouve maintenant, et c'est peut-être l'héritage Merkel, dans une situation compliquée.
Pascal Boniface.
En même temps, les accords de Minsk ont évité à l'époque ce que l'on voit maintenant. Et donc, il faut quand même faire attention à cela, parce que Zelensky, il a quand même des indignations sélectives. Il vient devant le Parlement, enfin en visio, devant le Parlement français, il critique nommément des entreprises françaises, il n'a pas critiqué nommément des entreprises américaines, allemandes ou britanniques. Mmh. Bon, il est quand même très conseillé par les Américains quand même, donc il règle ses comptes et les Américains règlent aussi leurs comptes. On peut dire aussi que les accords de Minsk ont évité ce que l'on voit maintenant et que le film peut-être n'a pas été suffisamment rétabli. Et l'Ukraine aussi, c'est l'Ukraine en partie qui n'a pas appliqué les accords de Minsk. Donc il faut, si on refait le fil de l'histoire à l'envers, il faut le refaire complètement. Et l'Allemagne, en fait, je crois que c'était la mauvaise surprise pour Poutine. Parce qu'il pensait que, comme d'habitude, l'Allemagne serait dans le compromis. Et là, même s'ils ne vont pas couper du jour au lendemain leur gaz, ils ont quand même pris des sanctions dont on ne pensait pas. Ils seraient en mesure
de... Ils venaient de construire ce gazoduc qui ne servira jamais.
Voilà. Et puis, quand ils annoncent 100 milliards en 5 ans de dépenses supplémentaires dans le domaine militaire, c'est quand même quelque chose.
L'Allemagne qui annonce 100 milliards, quelle transition dans le domaine militaire, et la France qui plus que jamais se dit que finalement, avoir une grande armée, se faire respecter, eh bien c'est utile. Regardez ce reportage, c'est le porte-avions Charles de Gaulle qui navigue en Méditerranée et qui voit décoller des rafales qui vont en Roumanie à la frontière ukrainienne. Alors je vous rassure tout de suite, ce ne sont que des exercices. Sujet de François-Julien Piednoir, Lara Lecartier et Thibaut Pomares.
C'est un aéroport sur l'eau qui permet d'envoyer des rafales n'importe où dans le monde. Le porte-avions Charles de Gaulle est en mission au large de la Grèce. Aujourd'hui, les pilotes de chasse décollent pour l'Europe de l'Est. Tout le pont d'envol est mobilisé pour catapulter les avions sur une piste de seulement 75 mètres. Il faut atteindre 260 km/h en 3 secondes.
La situation actuelle, ça augmente un petit peu la pression.
Alors pour nous, ça change pas, parce que nous le métier, c'est le même. Après, on le sait très bien, quand on s'engage dans l'armée, on est des militaires.
Et si demain il faut aller à la guerre, on va dire à la guerre, tout simplement.
C'est le job ?
C'est le job.
Les pilotes français sont envoyés à la frontière ukrainienne pour rassurer les alliés de l'OTAN, faire du bruit comme ils disent, et montrer les muscles face à la présence russe. On appelle ça de la dissuasion.
Pascal Boniface, c'est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, on se dit à quoi ça sert tout ça. Bah là, on se dit, si Vladimir Poutine il devait agresser un pays d'Europe de l'Ouest, il ne commencerait pas par la France.
Non, effectivement, parce qu'il y a quand même... D'ailleurs, quand on voit les difficultés de l'armée russe à gagner une guerre contre l'Ukraine, qui n'est pas suréquipée, même si elle est bien équipée par les Américains, effectivement, la France et l'Allemagne, c'est la marche au-dessus. Donc effectivement, c'est le retour de la guerre. La France a quand même des dépenses militaires et une armée. Alors on peut toujours dire il manque tel ou tel équipement, etc. Mais grosso modo quand même, quand je me vois, je me désole. Quand je me compare, je me console. L'armée française, elle est efficiente, opérationnelle et elle est disciplinée. C'est-à-dire que quand elle intervient, il n'y a pas ce que l'on voit en Ukraine, etc. Donc oui, il faut être vigilant. La France a décidé d'augmenter encore ses dépenses militaires, mais c'est une décision qui a été prise déjà avant le déclenchement de la guerre en Ukraine pour monter le niveau à 2% du PIB. Certains disent oui, mais l'Allemagne va dépenser plus que nous. C'est gênant, mais l'Allemagne a un PIB plus important que la France, donc c'est proportionnel.
Ah oui, c'est proportionnel. François Bedonnet, mais l'avenir c'est quoi ? C'est l'Europe de la défense dont on parle tant ou c'est l'OTAN ? L'OTAN, l'organisation traitée de l'Atlantique Nord, finalement. Avec les Américains, tous ensemble face aux méchants, quoi.
C'est les deux, mon général.
Ah, on peut faire les deux, on peut articuler les deux. Parce que l'OTAN, c'est Washington, pour faire simple. L'Europe de la défense, c'est Bruxelles.
La position de la France, d'ailleurs, a assez évolué ces derniers temps. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron disait il faut une Europe de la défense. L'idée étant de quelque chose qui soit vraiment européen. Là, depuis quelques semaines, quelques jours, on parle plutôt d'un pilier européen de l'OTAN.
Au sein de l'OTAN.
Donc les choses sont en train de bouger. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette Europe de la défense, nous les Français, on est à peu près les seuls à la défendre, pour le coup, au niveau européen. Vraiment, on est isolés. Les Allemands n'en veulent pas. En fait, personne n'en veut véritablement. Donc ce que ça va faire, ce qui se passe en Ukraine, c'est que, on vient de le voir, les budgets nationaux militaires vont augmenter considérablement. Et dans certains cas, on part de très bas, donc la progression va être notable, mais elle était nécessaire. Mais est-ce qu'il y aura ensuite une Europe plus harmonisée, une Europe de la défense, avec une interopérabilité des armées entre elles, etc. C'est pas certain. Je pense que c'est pas ça qui va se passer dans les années qui viennent.
Pascal Boniface, c'est en retour au XXe siècle. Là, il y a l'OTAN, donc européen, américain à côté, les Russes de l'autre, et le reste du monde. Je cite Pascal Lamy, une grande partie du monde ne nous suit pas dans cette affaire. Comment le reste du monde voit-il ce retour là du bloc Est-Ouest ?
Très mal, parce qu'en fait, dès que les Occidentaux prennent des sanctions, le reste du monde pense que c'est une volonté occidentale de dominer le monde. Et donc, y compris, c'est pas que les dictatures, des démocraties comme l'Afrique du Sud,
le Mexique,
le Sénégal, n'ont pas envie de nous suivre parce qu'il n'y a que les Occidentaux qui prennent des sanctions. Et donc, l'immense majorité des pays a condamné l'agression russe, et l'immense majorité des pays ne veulent pas de sanctions contre la Russie, parce que les sanctions, c'est la domination occidentale sur le monde, et pour eux, c'est une étape qui doit être révolue.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette Info C'est Clair, c'était passionnant. Je rappelle que l'émission est disponible en podcast audio gratuitement sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée, à demain.